Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma avec des chroniques et puis un blind test. Et le blind test du jour, il sera consacré à Matt Damon. Pourquoi Matt Damon ? Eh bien parce qu'il est dans le film Stillwater et je vous en parlerai durant cette émission. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous, eh bien chacun un film. Toi Guillaume, c'est un film peut-être un peu confidentiel qui nous vient du Brésil.
Oui, c'est Je m'appelle Bagdad de Caro Alves de Souza.
Et puis toi Manu, c'est un film que tu as pioché à la fin des années 90.
Donc 97, donc Perdita Durango de Alex de la Iglesia.
Mais nous commençons cette émission avec La Troisième Guerre, un film avec Leila Bekti et Anthony Bajon. Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affectation, eh bien, il écope d'une mission sentinelle. Waouh, chanceux.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Une rue, des passants, des fenêtres. Ce que tu vois, c'est des menaces potentielles. Alors tu te méfies.
Léo est un très jeune homme que sa situation familiale difficile, son besoin d'action et sa volonté de se rendre utile ont mené tout droit vers l'armée. Pour sa première affectation, Léo rallie la mission Sentinelle, un dispositif militaire mis en place depuis les attentats de 2015, notamment dans les grandes villes et qui permet une surveillance accrue pour déjouer d'éventuels nouveaux attentats. Alors nous nous sommes tous déjà demandé, hein, en croisant dans les rues des militaires armés, si leurs armes étaient vraiment chargées, quels âges ils avaient, et en quoi consistait réellement leur mission, pourquoi ils ne semblaient parfois rien faire de la journée, des questions auxquelles la Troisième Guerre répond en tirant à balles réelles sur un système pour le moins bancal. C'est en suivant trois personnages, Léo donc, interprété par Anthony Bajon, mais aussi Yasmine, que joue Leila Bekti, et Hicham, joué par Karim Leclou, que l'on entre au cœur de cette armée française, une armée faite de jeunes sans avenir, d'enfants immigrés qui se sentent rejetés ou encore d'individus qui ont besoin de se prouver que la société a besoin d'eux.
Un mec tout seul. Ça a l'air cool, hein ? Mais tu vois pas ses mains. Alors tu te méfies. Le mec qui va te planter, il a pas la gueule du mec qui va te planter. Tu crois que la fille qui te demande son chemin, elle a l'air sympa, hein ? Le gosse qui passe. Sorte un schlasse, tu fais quoi ?
Et c'est un portrait à charge que dresse le réalisateur Giovanni Alloa, sans concession, qui fera sans doute grincer des dents l'armée telle que l'a décrit le cinéaste dans son premier film tourné en France, se caractérise par une misogynie omniprésente, personnifiée par le personnage de Leila Bekti, un sergent peu respecté, enceinte et contrainte de taire sa grossesse, mais c'est aussi de la masculinité toxique à tous les étages et des rapports de force entre soldats qui eux-mêmes aussi entre mythomanie et consommation de stupéfiants et d'alcool.
Colis suspect.
Ça sent le rhum qui l'a vidé, qui l'a foutu là, ça.
Un rhum qu'abandonne un viton.
Je te rappelle.
Bon, allez, on protège. Putain, Orsioni, qu'est-ce que tu branles, là ?
Orsioni, tu te relèves tout de suite. Mon lieutenant, ici Mike 17. Positionné, garde Bercy. Niveau moins 1, qui est 45-47. Objet suspect. Demande EOD ou patrouille d'intervention.
Suspect comment ?
Quand même, suspect.
Je vous envoie une patrouille.
Reçu. Patrouille arrive dans 5 minutes.
Pas de OD !
Ce que le film met en exergue également, c'est le manque de dialogue entre la police, l'armée et la population, puisque les militaires n'ont pas le droit d'agir sans en avoir reçu l'ordre. Étranglés entre l'obéissance à leur hiérarchie, la paranoïa qu'on leur inculque et l'envie d'être des héros, ces jeunes soldats apparaissent comme des bombes à retardement. Un cocktail explosif qui nous amène à nous demander d'où vient réellement le danger. La menace est-elle extérieure finalement ou vient-elle des gens chargés de protéger les populations ? On sort de ce film, écrit en étroite collaboration avec d'anciens et d'anciennes militaires, sonné, plein de questions, certains aussi d'avoir vu un film fort, malgré une fin peut-être un peu précipitée, mais comme le dit le réalisateur lui-même, La Troisième Guerre est un film réaliste et notre société ne mérite pas de happy end.
Allez dans ta gueule, face de plomb.
avez vu des femmes dans l'armée française? Moi, j'ai vu que des soldats. Vous êtes un soldat?
Oui, mon commandant.
Sortez-vous les doigts du cul, en fait, moi, ce parcours.
Corvard, on a tous des problèmes. Mais quand t'arrives au régiment, tu les laisses derrière toi. Est-ce que tu sais pourquoi on porte un uniforme? Pour uniformiser, justement. Donc je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête, je veux pas savoir ce qui se passe chez toi.
Je m'en fous de savoir que bientôt ça va être le chaos. Je sais pourquoi je suis là maintenant. J'ai plus peur.
Troisième guerre de Giovanni Alloa est en salle depuis le 22 septembre. Autre film en salle à cette date, Je m'appelle Bagdad, direction Sao Paulo, avec Bagdad, qui est une skateuse habituée à traîner avec des hommes et qui va découvrir un groupe de skateuses.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Je m'appelle Bagdad n'est pas du tout un film qui fait référence donc à la capitale de l'Irak, ni ne personnifie un ou une habitante de cette ville, très souvent synonyme de foyer de violence ou d'affrontement aux journaux télévisés du monde entier. Et c'est pourtant, dans le film de Caro Alves de Souza, quand même un symbole de lutte, mais cette fois-ci intérieur. La Bagdad du titre, c'est une adolescente skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do O, un quartier populaire de la ville de Sao Paulo au Brésil. Quand elle n'enchaîne pas les figures, les tricks et de nombreuses discussions avec un groupe de garçons, elle s'occupe de sa famille et des habitants hauts en couleur de sa rue. De par son apparence et ses activités, Bagdad détonne dans le paysage. Plus masculine que féminine, elle assume ses amours, son attitude et ses envies et rencontre dans son quotidien l'amour et l'approbation de ses proches, comme de la méfiance et parfois de l'hostilité de la part d'individus plus traditionalistes ou réactionnaires. Bagdad est à la fois une parfaite représentation de son époque et est en même temps un mélange qui dérange. Au fond, Bagdad cherche à faire de sa particularité une force. Elle n'entre dans aucune case et c'est ce qui la rend différente et dissemblable de son entourage.
Hé, c'est un homme ou une femme? T'as de la merde dans le crâne, petite. Qu'est-ce que tu fous ici? Tu baises avec tous ces gars, pas vrai? Allez, mais
tout de quoi? On vit au rythme de l'héroïne, ce qui se traduit justement par un rythme flottant. Entre ennui et exaltation, rencontre au coin des rues de Sao Paulo, tranches de vie souvent indépendantes mais toutes reliées par la même simplicité et le même dénuement, ce n'est donc pas étonnant que le titre du film soit « Je m'appelle Bagdad ». Ce petit bout de femme masculine, qui est presque dans tous les plans et qu'on ne quitte jamais, est le lion donc de ce film, et celui de tous les personnages que l'on croise dans son entourage. Pourtant, la situation change un peu vers le milieu du film. Alors que, comme elle, nous avons pris l'habitude de la voir évoluer, figure singulière au milieu des garçons sur le terrain de sport, elle découvre l'existence d'un groupe de skateuses féminines, ce qui va changer la donne pour elle et le film. Elle va essayer d'entrer dans une sorte de rang naturel sans vraiment y correspondre totalement. Au fond, ce qu'elle recherche d'une façon ou d'une autre, c'est de pouvoir se sentir libre, quelle que soit l'étiquette qu'on voudrait ou pourrait lui coller. C'est pourquoi Tatiana, donc son vrai nom, se surnomme Bagdad. Comme un personnage de la Casa de Papel, elle s'efface derrière un nom de ville pour mieux faire appuyer son poids aux yeux des autres. Mais la réalité vient toujours frapper à la porte à un moment donné ou à un autre. Qu'elle appartienne à un groupe, les garçons, ou à un autre, les filles, il va être question de la place que prend le premier sur le skatepark, imposant sans totalement le vouloir leur présence parfois lourde et gênante pour les filles. Bagdad, ce trait d'union entre tous les personnages du film, va être celui qui va donner du courage aux filles pour s'imposer face à un territoire et une pratique qui sont d'habitude dominés par les hommes.
T'es qu'un porc, mec. Tu la connais même pas, mais la seule chose que t'as à dire, c'est qu'elle est bonne.
T'es jalouse, Bagdad?
Au début, l'univers était encore plus petit que ça. Il a explosé et maintenant, il est infini.
On voit bien qu'on est loin des Seigneurs de Dogtown. On pense beaucoup aux films d'Armory Corrine et de Larry Clark, et en particulier à son What's Up Rockers. Une scène en boîte de nuit utilise d'ailleurs elle aussi du punk rock en fond pour rappeler l'aspect toujours aussi anti-système de cette musique pour les jeunes rebelles. Comme Larry Clark dans le même film, la réalisatrice utilise le skate en toile de fond et une caméra à l'épaule pour capter les évolutions de ses protagonistes qui se règlent sur le rythme de la pulsation de leur rue. Le procédé est même poussé au plus loin, puisque pour continuer à donner cette impression de réalisme, Bagdad ne se déplace jamais elle-même sans sa caméra et filme presque sans interruption le monde qui l'entoure. Comme si ces jeunes oubliaient des préoccupations économiques du monde, cherchaient à marquer l'histoire en immortalisant à leur manière leur histoire, celle de tous les jours, dans ses joies et tristesses comme dans ses non-événements. Ces non-événements, c'est justement ce qui triera les spectateurs du film. Certains y verront une belle chronique adolescente qui aborde plus ou moins pleinement des thématiques actuelles comme le féminisme, la place des femmes et des hommes ou l'homosexualité. D'autres, déçus par le manque de profondeur, risquent peut-être de s'y ennuyer.
Je m'appelle Bagdad, donc film brésilien, est en salle depuis le 22 septembre, tout comme Stillwater, qui nous raconte l'histoire d'un père, Matt Damon, qui vient rejoindre sa fille en prison à Marseille. Choc des cultures, amour paternel et poids du passé pour ce thriller teinté de drame social.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard.
Présenté hors compétition à Cannes et en ouverture du festival américain de Deauville, Stillwater est le 8e film de Tom McCarthy, à qui l'on doit notamment l'excellent The Visitor, tout en équilibre entre émotion et rudesse, et puis Spotlight, le film qui a dénoncé les abus sexuels dans l'église catholique. Alors Stillwater a de quoi étonner, hein. Ça tient d'abord à son casting, Matt Damon en ouvrier du pétrole et père prêt à tout, et puis Camille Cotin. Et puis au lieu aussi où se déroule cette histoire, Marseille et les États-Unis. Stillwater parle donc américain et marseillais. On suit le trajet de Bill, Matt Damon, donc, de l'Oklahoma à Marseille. Alors il s'y rend pour soutenir sa fille qui purge une peine pour un meurtre, celui de son amoureuse qu'elle dit ne pas avoir commis. Son père la croit, d'autant que celle-ci lui indique qu'un certain Hakim pourrait être l'auteur du crime. Le réalisateur emprunte cette trame à l'affaire Amanda Knox, pour laquelle une jeune américaine faisant ses études en Italie a été condamnée en 2007 pour le meurtre de sa colocataire. Alors même si un nouveau prénom sort du chapeau, l'avocate ne suit pas cette piste. C'est donc seul que Bill entreprend de débusquer des preuves. Mais difficile pour lui, hein, qui ne parle pas un mot de français et qui se retrouve, qui plus est, c'est rappelé dans le film, dans une ville à part, avec une mentalité qui l'est tout autant. Cette ville, donc, c'est Marseille. Matt Damon dans les quartiers nord, c'est ce qu'on nous propose, hein, le temps de quelques séquences qui ont quelque chose alors de surprenant dont on est habitué quand il s'agit de baston, à voir Matt Damon s'en sortir sans une égratignure, à l'image donc de son personnage de Jason Bourne. Heureusement, Bill est aidé donc par Virginie, interprétée par Camille Cotin, qui s'en tire merveilleusement bien. Son naturel et sa jovialité tranchent avec le personnage noir de Matt Damon. Le film avance avec d'autres points de radicalité, hein, soulignés par la mise en scène. Certaines scènes se déroulent aux États-Unis. Elles sont tournées avec une caméra fixe, sans changement de plan, soulignant l'immobilisme d'un pays sous l'ère Trump. Hein. Et puis à Marseille, c'est le choix de la caméra épaule qui domine, donnant une mise en scène nerveuse. Alors autre point de radicalité et d'opposition, le rapport qu'entretient Bill avec sa fille qu'il a peu connue et celui qu'il va entretenir avec la fille de Virginie, car cette dernière, Virginie, va vraiment l'aider au point de lui offrir un toit et ainsi lui offrir une place dans son foyer. Alors Bill a ainsi l'occasion de rejouer sa vie en nouant une relation avec une petite fille. Cela le renvoie à l'échec de sa paternité.
You gotta start out a worm, you know, that's the lowest of the low. A worm.
Non, pas worm. Je veux travailler sur le Derrick, like you.
You going right to the Derrick? You gotta have the want to. You got the want to?
Ben oui.
Avec Stillwater, on n'ira jamais sur la Canebière. Hein. On oscille entre la visite du père à la prison des Baumettes, son boulot sur les chantiers et puis ses errances dans les quartiers nord à la recherche de celui qui pourrait innocenter sa fille. Barrière de la langue, différences culturelles, système judiciaire qu'il ne comprend pas, passé sombre d'alcoolique et de père absent, Stillwater est donc chargé. Et c'est peu dire que Matt Damon assure sa partie. Dans ce thriller marseillais aux accents américains, la star hollywoodienne sait faire profil bas, homme de peu de mots, mais aussi homme de courage qui est prêt à changer de vie pour changer aussi celle de sa fille. Pour éviter de tomber dans la carte postale marseillaise, même si on va faire un tour au Vélodrome, le scénario de ce film a été confié à deux Français. Tout d'abord Thomas Biguin, le réalisateur des Cowboys et de Selfie. Et puis Noé Debré qui a collaboré à Problemos et puis le plus controversé d'Ipan. Il y a quelque chose qui ronronne, hein, à trop vouloir enterrer son personnage, à faire peser sur lui le temps qui passe et les moments qu'il a ratés, eh bien le rythme s'en ressent un peu. Mais Stillwater a tout de même le charme d'un thriller qui n'en est pas tout à fait un, ajouté à une romance qui a du mal à éclore et d'un film social qui éclaire bien sûr deux mondes, les États-Unis vieillissants et puis l'énergie de Marseille. Stillwater, donc film de Tom McCarthy avec Matt Damon, Camille Cotin, est en salle depuis le 22 septembre. Ça nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Matt Damon.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Alors pour les fidèles, c'est un blind test que j'ai ressorti des archives puisque nous en avions déjà fait un il y a quelques années de cela, mais je trouvais qu'il était déjà bien choisi avec des séquences. Alors pour une fois, peut-être un peu longue, ça va parfois dépasser la minute, mais ça me semblait intéressant. Donc je rappelle le but du jeu du blind test. 5 extraits à écouter, il faut deviner les titres de ces films. Premier extrait.
Pourquoi je travaillerais pas pour la NSA ? Ça, c'est une colle. J'ai essayé d'y répondre. Disons que je travaille à la NSA et qu'on dépose un code sur mon bureau, un code réputé inviolable. Mettons que je tente ma chance et mettons que je le déchiffre. Là, je suis très content de moi parce que j'ai bien fait mon boulot. Mais c'était peut-être le code de l'emplacement d'une armée rebelle au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et une fois qu'on a repéré le lieu, on bombarde le village où les rebelles se cachent. Et 1500 personnes que j'ai jamais vues, qui ne m'ont jamais rien fait, sont tuées. Et les politiciens, ils disent... Envoyer les Marines s'assurer la sécurité parce qu'ils en ont rien à foutre. C'est pas leurs gosses qu'ils envoient se faire descendre. Comme eux, ils sont jamais allés au feu parce qu'ils étaient tous planqués dans la garde nationale. C'est un pauvre môme de Boston Sud qui se prend un shrapnel dans les fesses. Et il revient pour apprendre que l'usine où il travaillait s'est exportée dans le pays d'où il vient d'arriver. Et le mec qui lui a filé le shrapnel dans le cul, c'est lui qui a son job. Parce qu'il bosse pour 15 cents par jour sans pause pipi. Maintenant, il comprend que la seule raison qu'il y avait de l'envoyer là-bas, c'était de mettre en place un gouvernement qui nous vendrait le pétrole pour pas cher. Et bien sûr, les compagnies pétrolières exploitent le conflit qu'il y a eu pour faire monter leurs prix et se faire du même coup un beau petit bénéf. Mais ça aide pas mon pote qui travaille pour des clous. Il traîne un max à livrer le pétrole, bien sûr. Peut-être même qu'ils vont employer un alcoolique comme capitaine, un buveur de martini qui s'amuse à faire du slalom entre les icebergs jusqu'au jour où il en frappe un. Le pétrole se déverse et ça tue toute vie dans l'Atlantique Nord. Alors là, mon pote est chômeur, il peut pas se payer de voiture et c'est à pied qu'il se cherche des jobs. Ce qui est pas marrant parce que le shrapnel qu'il a eu dans le cul lui a filé des hémorroïdes. Et puis en plus, il crève de faim parce qu'à la soupe populaire, on lui propose comme plat du jour de la morue de l'Atlantique Nord avec de l'huile de moteur. Alors qu'est-ce que j'en pense? Je vais attendre une offre meilleure.
C'est ce qu'on pourrait appeler une diarrhée verbale, mais c'est quand même une sacrée argumentation. Alors, ça n'a pas été trouvé ici dans les studios. Peut-être que vous, vous avez trouvé, chers auditeurs. C'est un garçon pauvre du quartier sud de Boston qui travaille à passer le balai au Massachusetts Institute of Technology, mais il se fait remarquer par un professeur parce qu'il
c'est Will Hunting.
Oui, Will Hunting, parce qu'il est très intelligent. Mais alors, il est intelligent, mais aussi un impulsif. Hein. Il se bat régulièrement, ce qui pourrait l'envoyer en prison. Et heureusement, le professeur veille et va tenter de le mettre entre de bonnes mains. Voilà, c'est Will Hunting, film de Gus Van Sant de 1997. Le scénario du film est écrit par Matt Damon et Ben Affleck, qui tiennent aussi eh bien, deux des rôles principaux du film. 1 million d'entrées en France. Voilà pour ce film de 1997, un autre film tourné quelques années après.
La vraie ironie, c'est que je fais pas semblant. Pas semblant d'être un autre, alors que toi. Mortel. J'ai été sincère, je t'ai ouvert mon cœur, sans la moindre méfiance.
Mortel.
Mais toi, si tu veux savoir... Il y a quelque chose, je le vois bien. Le soir où on a fait la partie d'échecs, tu vas dire que ça crevait pas les yeux.
Quoi, quel soir?
Bah voyons, non, ce serait trop dangereux, bien sûr, que tu le reconnaisses. Oh non, 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 on est frères. Et tout ce que tu trouves, c'est ce truc sordide avec Marge. Il a fallu que tu la baisses sur le bateau, alors qu'on entendait tout. C'était une torture pour tout le monde. Il faut que t'écoutes que ta queue quand on a envie. Et là, tu vas te marier. Non, j'en reviens pas, je m'excuse. Tu racontes des salades, tu mens à Marge, et puis tu l'épouses alors que tu tapais Sylvana. Tu l'avais engrossée, tu bousilles la vie des gens, tu veux jouer du saxo, tu veux jouer de la batterie, décide-toi. À quoi tu joues? Pour qui tu te prends? Hein? Cassia de troisième zone, pour qui tu te prends? De quel droit t'as quoi que ce soit à me dire? Hein? De quel droit je t'interdis de me dire quoi que ce soit? D'ailleurs, je me demande vraiment ce que je fais sur ce bateau avec toi. Je peux pas faire un geste sans que tu fasses le même.
Tais-toi.
Tu me donnes envie de vomir. Tu me donnes envie de vomir. À tout bout de champ. Tiki, tiki, tiki. Comme une petite fille sans arrêt. Tais-toi.
Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est pris un coup de quelque chose sur un bateau. Ça a été trouvé.
C'est le talentueux Monsieur Ripley de Anthony Minghella.
Oui, film de 1999 avec Matt Damon, Jude Law, Philippe Seymour Hoffman. 40 ans après le film Plein Soleil de René Clément avec Alain Delon, hein, sorti en 1960, Anthony Minghella adapte à nouveau le roman de Patricia Highsmith, Monsieur Ripley. Le père du jeune Dickie Greenleaf aimerait que son fils, qui mène la belle vie en Italie avec sa fortune, eh bien, revienne au pays. Il envoie pour ça Tom Ripley, qui découvre un monde éblouissant. Et malheureusement, eh bien, il pourrait aller jusqu'au meurtre pour le conserver. 516 000 entrées en France pour ce film. Un peu plus d'entrées pour celui-ci.
C'est une belle réplique, ça, quoi. Un bel échange de répliques.
J'ai proposé des longs monologues. Et puis là, eh bien, c'est vraiment pure action, du bruit. C'est
du bli américain. En fait.
Jason Bourne, donc. Alors, oui. Lequel? Alors, mémoire dans la peau.
Je dirais la mort, moi.
Oui, je ne sais plus lequel j'ai pris, mais je pense qu'on peut trouver ce genre de son dans toute la saga de Jason Bourne.
J'ai mis une option sur un bruit de chaise et de table qui se casse.
Voilà, après, on pourrait chercher à identifier, ce serait une question subsidiaire. Qu'est-ce qui est cassé? Donc, un homme portant des traces de balles dans le dos est repêché à la mer. Il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Il va apprendre qu'il se dénomme Jason Bourne et qu'il est suivi à la trace pour être éliminée. Donc j'ai choisi là, j'ai choisi que c'était La mémoire dans la peau, film de 2002, mais évidemment il y a eu ensuite La vengeance dans la peau, Jason Bourne l'héritage, un peu différent, et puis Jason Bourne en 2016, 765 000 entrées pour le premier volet de cette saga. Quatrième extrait de ce blind test consacré à Matt Damon.
Alors, de quoi est-ce que vous vouliez me parler ?
Le gouvernement va vous expulser à cause de certaines activités.
Je vis dans ce pays depuis l'âge de 2 mois. Et vous pensez que je suis italien ? Je suis américain. Et on veut me renvoyer là-bas.
Je pourrais faire annuler votre ordre d'expulsion. Et vous faire classer comme hautement sensible pour la sécurité nationale. J'intercéderai pour que le gouvernement vous oublie si vous nous aidez.
C'est des gars comme vous qui me font peur. C'est des gars comme vous qui font des grandes guerres.
On fait en sorte que ça reste des petites guerres, monsieur Palmy.
J'ai une question à vous poser. Nous, les Italiens, on a nos familles, on a la religion. Les Irlandais, ils ont leur patrie. Les Juifs ont leur tradition. Même les Nègres, eux, ils ont leur musique. Mais vous et vos semblables, monsieur Carlson, qu'est-ce que vous avez ?
On a les États-Unis d'Amérique. Vous n'êtes tous ici qu'en visite.
Voilà encore une séquence qu'il était bon de garder dans son entier. Donc ça n'a pas été trouvé. Je pensais que vous auriez trouvé. Alors, les deux personnes qu'on entend, les deux personnages sont interprétés par Matt Damon et Robert De Niro. Et il y a aussi Angelina Jolie dans ce casting. À la fin des années 30, Edward Wilson, un étudiant brillant mais effacé, est amené à collaborer avec le FBI pour démasquer un de ses professeurs soupçonné de sympathie nazie. Et cette première mission pour les services secrets scelle son destin, tandis que la Seconde Guerre mondiale approche. Edward intègre le bureau des renseignements et grimpe un à un les échelons de la hiérarchie. C'est le deuxième film de Robert De Niro. C'est Raison d'État.
Je ne l'ai pas vu.
Moi non plus.
C'était Leonardo DiCaprio qui devait initialement jouer Edward Wilson. À noter que le titre original, c'est The Good Shepherd, donc le bon berger. Voilà. 521 000 entrées en France pour Raison d'État. Dernier extrait de ce blind test consacré à Matt Damon.
J'ai vécu ça des dizaines de fois et c'est une impasse. Vous avez tenté le coup, c'est normal. Mais je dis attention, ne jouez pas trop à ce jeu-là. Parce qu'on ira simplement voir ailleurs, c'est ce qu'on fait toujours. Et quand on aura signé toutes les villes dans les 3 États, que chacun aura mesuré les nombreux et fantastiques avantages pour leur économie, on reviendra vous voir. Mais ce jour-là, on ne vous fera pas de cadeau. Cette ville n'aura rien, que dalle. Les avantages secondaires, le jus de contrat de bail, vous devrez faire le deuil de tout ça. On s'offrira cette ville sans rien donner.
Alors, là, à mon avis, temps de négocier. Alors j'ai voulu mettre celui-ci parce que là, c'était un changement de registre quand même pour Matt Damon, film de 2012.
Bienvenue à Suburbicon. Non, c'est pas celui-là.
Alors, je vous raconte le synopsis. Steve Butler représente un grand groupe énergétique. Il se rend avec un collègue dans l'Amérique profonde à la recherche de terres achetées pour
Iceland de Gus Van Sant.
Oui. Ouais. Alors, donc, il veut forer les terres afin d'extraire du gaz de schiste. Mais rien ne se passe comme prévu. C'est Promised Land, donc film de Gus Van Sant. Il y en aura eu deux dans ce blind test, film de 2012. Ce film a réuni seulement 217 000 spectateurs en France. Mais autant dire que eh bien, tous ici, on vous le conseille. Rattrapage en DVD Blu-ray ou VOD. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Matt Damon.
Tu aurais pu mettre quand même un extrait de Team America où la seule réplique de Matt Damon est « Matt Damon
». Ah oui, mais ça m'avait même échappé, ça.
This is Cinerama.
On passe à Perdita Durango, version Director's Cut inédite en France, donc du film de Alex de la Iglesia, un film des années 90, fin des années 90, jamais sorti en France.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinerama.
Oui, et j'ai horreur des questions.
Figure inquiétante aperçue dans Sailor et Lula de David Lynch, sous les traits d'une Isabella Rossellini méconnaissable, Perdita Durango est devenue le personnage éponyme d'un nouveau livre de Barry Gifford. Alors, 7 ans plus tard, le producteur Vincente Gomez engage Alex de la Iglesia pour donner sa version du roman. Le jeune espoir du cinéma espagnol, qui s'est alors forgé un petit nom avec Action Mutante et Le Jour de la Bête, s'exile temporairement aux États-Unis, enfin plus précisément au Mexique, et signe l'un de ses films les plus ambitieux et réussis, qui, hélas, s'est vu privé d'une sortie en salle dans l'Hexagone. Alors, après 24 ans, Perdita Durango refait surface dans son montage Uncut. Alors, qui est cette anti-héroïne qui porte le patronyme d'un personnage de western italien ? Vêtue de noir, Perdita Durango revêt le costume d'un oiseau de mauvais augure qui va perverser pervertir le très infantile Roméo, jouisseur invétéré pour qui la transgression n'est qu'un jeu futile. Intelligemment, Alex de la Iglesia induit le spectateur en erreur. L'apparition folklorique de Roméo avec ses longs cheveux raides, ses bottines de cow-boy et son sourire gentiment sadique le positionne de façon trop caricaturale pour être pris au sérieux du côté du mal. Or, ce n'est qu'un costume carnavalesque pour endosser l'apparence d'un diablotin d'opérette, plus ridicule que terrifiant. Il n'a d'ailleurs encore assassiné personne, même s'il trimballe un cadavre dans sa camionnette. Mais au contact de Perdita, il bascule pour aller danser au clair de lune avec le diable, phrase célèbre provenant du Batman de Tim Burton, claironnée judicieusement par Roméo à un moment clé du film. Perdita s'est éloignée des humains, les observe avec cynisme et sans aucune empathie. Elle corrompt sans peine cet enfant de Roméo, même lorsqu'il s'adonne à des rites proches du vaudou, la Santeria. Avant sa rencontre, elle ne faisait que tricher, s'exhiber, truquer ou au pire, cambrioler une banque sans manquer de demander à une secrétaire de montrer sa poitrine au risque de se faire prendre. Un bouffon pour qui la vie est un grand cirque. Mais Perdita a le don de le pervertir. Les deux amants vont donc kidnapper des jeunes adultes américains avant de les torturer et les violer, avec comme issue possible la mort. Comme si cela ne suffisait pas, Roméo est engagé pour transporter des fœtus jusqu'à Los Angeles. Alors par sa surprenante insensibilité à fleur de peau, Perdita Durango dépasse son statut un peu galvaudé de film cul post-Tarantino à la sauce mexicaine. A contrario d'un Robert Rodriguez, hein, archétype du cinéaste fun mais un peu décérébré, Alex de la Iglesia n'est pas un simple faiseur, un geek qui réalise des potacheries sans conséquence. Derrière une bonhomie amusante se dissimule un angoissé, un véritable auteur à la fois terrifié et fasciné par le mal qui contamine ses personnages principaux. La grande force, même morale du film, tient à l'évolution de Perdita. Là où Roméo s'enfonce dans une joyeuse perversité, elle, à l'inverse, retrouve, presque par lassitude, une humanité perdue. Alors diffuser les mauvaises ondes à son entourage ne l'amuse plus, elle évolue à l'écran et devient sous nos yeux un beau personnage de cinéma désabusé et mélancolique. La balade sanglante donc des deux psychopathes amoureux ne va pas en crescendo. Elle démarre sur les chapeaux de roue, enlèvement de deux jeunes adolescents bien sous tout rapport qui vont dans un premier temps subir les sévices très incorrects des anges de la mort. Mais quelque chose s'enraye, empêche le spectacle de s'envoler vers des excès irréversibles. Plus le film avance, plus il dessine ses contours cabossés d'un war movie déceptif. Pas de cynisme chez de la Iglesia, mais une saine méchanceté, un esprit frondeur, plaçant le spectateur dans une position inconfortable en nous faisant ressentir davantage d'empathie envers les bourreaux que les victimes. Alors un tour de force baignant dans une amoralité à peine tempérée par une rédemption finale, un rachat qui tient plus de l'humanisme du cinéaste que d'un moralisme bêta. Véritable déclaration d'amour au cinéma également, du film noir au western, citant ouvertement le génial Veracruz de Robert Aldrich comme référence ultime, Perdita Durango se permet aussi le luxe d'emballer de formidables scènes d'action, démontrant une parfaite gestion de l'espace et du temps grâce à un découpage précis et lisible. En dépit d'une baisse de rythme à mi-parcours et de quelques flottements dans le scénario, le film de Alex de la Iglesia s'est bonifié avec le temps. Derrière le trip rock'n'roll plein de bruit et de fureur, de baise et de mort violente, se cache un film plus secret, celui réalisé par un clown triste, profondément attaché à son couple improbable de tueurs, alors magnifiquement incarné par la sensuelle Rosie Perez et le fou furieux Javier Bardem. Et puis, en plus, le casting est assez impressionnant puisqu'on y croise James Gandolfini, mais aussi le cinéaste indépendant anglais qui avait réalisé Side and Vicious, Alex Cox. Il y a aussi le bluesman Screamy Jay Hawkins. Bref, il y a toute une flopée de second rôle qui rend ce film à la fois attachant et passionnant.
Perdita Durango, donc, si vous l'avez déjà vu, vous ne l'avez pas vu au cinéma, et c'est ce que le distributeur maintenant vous propose sur grand écran.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre,
comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je défendrai un film, Les Intranquilles, de Joachim Lafosse. Film merveilleux. Et puis toi, Manu, ce sera pas le cas.
Les Animaux Anonymes, un film fantastique qui a été présenté cette année à Gérard May.
Et puis toi, Guillaume.
Moi, je m'engage dans la suite. C'est quel reboot, on sait plus trop, de Candyman, de Nia DaCosta.
À la semaine prochaine.
T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant!
Ladies and gentlemen.
Tout ça, c'est du cinéma.
This is Cinerama.
Mais arrête de nous briser les purnes.